Bien, bonjour à tous. Alors, comme Franck l'a dit, je serai avec vous pendant deux semaines, ce week-end et le week-end prochain. Donc, aujourd'hui, c'est la pratique pour vous habituer à mon dialecte. Puis, la semaine prochaine, vous comprendrez tout. Ou on essaiera. C'est un beau privilège pour moi. Donc, c'est pas la première fois que je viens. Il y a deux ans, j'ai prêché. Mais vous avez, pour le dire en français, vous avez upgradé vos locaux. Vous êtes passé à des locaux vraiment intéressants. C'est vrai, tu m'avais dit, c'est très bien. C'est bien. Notre assemblée est établie depuis 60 ans. Et d'ailleurs, elle a été implantée par un missionnaire français qui venait de la région de Toulouse, Élisée Beau. Et maintenant, cette assemblée est une, bon, on dirait une grosse église, 350. On est à côté de la plus grosse église en francophonie évangélique, Nouvelle Vie, 4500. Donc, on est une église moyenne. Mais on est en train d'implanter une église qui se réunit maintenant dans un cinéma, donc dans des salles de cinéma. Et vraiment, vous avez des belles installations ici. C'est très encourageant de voir ce que vous êtes en train de faire ici. Très, très encouragé. Merci pour votre accueil, très chaleureux. C'est très, très agréable. Certainement que j'utiliserai quelques expressions que vous ne comprendrez pas. Venez me voir après, ça me fait plaisir de vous taquiner avec le week-end. C'est Clément qui m'a fait réaliser ça. Donc, je lui ai demandé, non, mais en français, comment vous dites week-end? Ben, il dit, on dit week-end. Je dis, non, c'est fin de semaine. Non, il dit, la fin de semaine, c'est le jeudi-vendredi. Mais c'est pas le jeudi-vendredi, la fin de la semaine. La fin de la semaine, c'est le samedi-dimanche. On appelle ça la fin de semaine. Non, il dit, c'est le week-end. Et à la petite école, qu'est-ce qu'on vous enseigne? Le week-end. Et voilà. C'est bon, on a tout compris. Mais nous aussi, on a nos anglicismes. Vous verrez, et donc on se taquine comme ça, on a du plaisir. J'ai eu l'opportunité dans mon ministère de voyager à quelques reprises dans différents pays, et j'ai toujours été attiré par les pays pauvres, les pays plus démunis. Je suis allé en Haïti à quelques reprises, et peut-être que c'est pour ça que je me plais ici à Genève, parce que j'aime les pays pauvres. Ça m'attire. Ben, du moins, dans la perspective de Jésus, Genève est plutôt pauvre spirituellement, vous serez d'accord avec moi. Et peut-être que sa richesse est la plus grande cause de sa pauvreté. Et donc, vous comprenez l'idée du jeune homme pauvre, n'est-ce pas? Et on va essayer de faire une réflexion ensemble pour voir quelle est notre richesse. Franck a parlé de notre identité comme chrétien, comme être humain, premièrement, déjà créé à l'image de Dieu, mais comme chrétien recréé en Jésus-Christ, cette identité-là fait de nous les êtres les plus riches de la terre. Et alors que peut-être comme communauté, comme église ici, vous n'avez pas l'impression d'être les plus riches de Genève, en fait, vous êtes peut-être ce petit village gaulois. Est-ce que je peux dire ça ici, gaulois en Suisse, ça se dit? Non, hein, c'est une offense. Vous êtes ce petit groupe de résistants, infiniment riches, mais plutôt invisibles, parce que les pauvres pensent qu'ils sont riches. Hein, c'est l'histoire de ce roi qui se croyait bien vêtu et qui, en fait, ne revêtait rien. Et c'est ça, Genève. C'est ça, Genève. Ça m'a frappé cette semaine. C'est peut-être la troisième ou quatrième fois que je viens. Et j'apprécie l'architecture, j'apprécie la beauté. Mais à tout coup, après quelques heures de marche, il y a une espèce de petite lassitude qui s'installe. Donc, j'ai plus de plaisir à aller m'asseoir sur le bord du lac Léman, à voir la nature, qu'à voir la richesse et l'opulence. Il y a une espèce de lassitude qui s'installe parce que c'est vrai que ça donne envie, ça donne le goût, et pourtant, tu dis, tout ça va disparaître dans quelques années et les gens qui habitent cela sont peut-être infiniment pauvres. Alors que Dieu vienne nous instruire ce matin, qu'il vienne nous faire grandir nous, afin que nous puissions briller de toutes nos bonnes œuvres au milieu de ces gens qui sont si pauvres et qui ont besoin de notre richesse, celle qui nous habite, Jésus-Christ. Je vais dire un mot de prière, puis on va se pencher sur ce passage. Seigneur Jésus, on vient humblement devant toi parce que nous avons tout à apprendre de toi. Cette semaine, j'étais confondu encore par mon cœur qui est fourbe, mon cœur qui est tortueux. Mon cœur qui porte tant de motifs doubles, Seigneur. Mais Seigneur, nous espérons en toi, nous nous attendons à toi, nous espérons dans la puissance de ton esprit pour faire des choses glorieuses à travers nous, Seigneur, malgré nous, malgré nos faiblesses. C'est ta promesse, Seigneur. Nous ne voulons pas voir les œuvres que tu peux accomplir à travers nous comme étant petites, comme dépendant de ce que nous pouvons mettre sur la table, mais nous attendons à toi, à ta puissance, Seigneur. Et c'est pour ces raisons que je te demande de venir nous rencontrer ce matin, de venir parler à nos cœurs, de venir saisir notre intelligence, de venir piquer notre curiosité, mais plus que ça, Seigneur, viens provoquer des transformations en nous. Et si quelques personnes parmi nous ce matin, peut-être en arrivant ici, s'estimaient bien riches sans toi, Seigneur, accorde-lui la grâce de réaliser sa pauvreté tant qu'elle ne possède pas Christ. C'est en son précieux nom que nous prions. Amen. Amen. Alors déjà, pour se mettre dans le contexte du passage, quelques versets plus tôt, dans Marc 10, je vais vous lire quelques versets rapidement, 13 à 15. Jésus se retire, il est dans une maison. On lui amena de petits enfants, afin qu'il les touche. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Et tout le chapitre 10 nous parle de l'attitude de cœur nécessaire pour entrer dans le royaume de Dieu. Déjà, Jésus avait mis au défi les docteurs de la loi quelques versets plus tôt en abordant toute la question du divorce, du mariage, tout ça, et en disant « Oui, mais vous utilisez la loi en cherchant toutes les failles possibles, toutes les possibilités pour ne pas être appelé à marcher dans la sainteté. » Et donc, Jésus vraiment vient les bouleverser. Les disciples eux-mêmes sont bouleversés en se disant « Mais qui pourra marcher dans une telle voie de sainteté? » Donc, on est déjà en train d'aborder les questions de l'attitude du cœur, de la disposition. Maintenant, des gens, des parents amènent des enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. C'était dans la coutume. Et les disciples, un peu hautains, disent « Non, mais ne venez pas accabler le maître avec de petits enfants, il n'y a pas de temps pour ça. » Et Jésus dit « Au contraire, ces enfants sont vos modèles. Ils sont vos modèles par leur attitude de cœur, par leur disponibilité. » Bon, on sait que ça ne dure pas tellement longtemps, n'est-ce pas? Après quelques années, on voit bien que leur cœur est aussi tortueux que le nôtre. Mais ils reçoivent, ils reçoivent. On parlait tout à l'heure de Clément et Léa, on a aussi un autre couple missionnaire, peut-être que vous les avez connus à l'IBG, Philippe et Myriam Huy. Et donc leurs deux plus vieux nous ont déjà adoptés. Quand je me pointe à l'église, ils partent à courir et ils me sautent dans les bras. Et c'est touchant pour moi de retrouver cet âge d'innocence ou sans crainte. On avance, on se lance. Lorsqu'on était tout petit, nos parents nous disaient quelque chose et on prenait ça pour du cash. On ne discutait pas, c'était la vérité. Et on perd cette belle innocence-là, même envers Dieu, celui qu'on devrait toujours prendre pour du cash. On devrait toujours croire sa parole, jamais le remettre en question. On devrait garder la même attitude qu'un enfant envers ses parents toute notre vie durant, lorsque le Seigneur nous parle, n'est-ce pas? C'est Dieu. Il dit toujours la vérité. Et pourtant, on perd cette belle innocence-là. Voici comment je résumerai la prédication de ce matin. Suivre Jésus t'assurera la vie éternelle, mais te demandera tout. Ça te coûtera tout ce que tu possèdes. Si tu lui demandes, il t'enseignera à le suivre. Alors, on a un jeune homme extrêmement brillant. Dans le passage dans Marc, il n'est pas question du fait qu'il n'est pas mentionné qu'il est jeune, mais lorsqu'on va dans les autres évangiles, les évangiles parallèles, on peut recouper différentes informations. Donc, un homme influent, riche et jeune, brillant, consacré, et qui vient et qui pose finalement la plus importante des questions. C'est une question souvent qu'on attendra la fin de la vie, on attendra les derniers jours. Nombre de personnes se tournent vers Dieu dans les derniers mois avant de quitter cette terre. Grand bien leur fasse. Heureusement, ils seront avec nous. Il y a de la place au ciel pour les ouvriers de la dernière heure. Mais c'est pas par sagesse qu'ils font ça. C'est par négligence. Et donc, bien des gens sont surpris par la mort sans jamais s'être posé cette question extrêmement intelligente que ce jeune homme riche vient poser à Jésus. Un riche qui pose de bonnes questions. Parlez-moi de ça déjà. Il est peut-être pauvre, mais il pose de bonnes questions. Il pose de bonnes questions. Il vient vers Jésus, et voici ce qu'on lit au verset 17. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Il a déjà une déférence, un respect chez ce jeune homme qu'on ne trouve pas chez tous les Juifs, n'est-ce pas? Donc, il vient et il se lance à genoux au pied de Jésus et lui dit, « Bon maître! » C'était usuel de l'appeler maître. C'était un enseignant. Alors, Nicodème l'approche en lui disant, « Maître! » Mais celui-ci lui dit, « Bon maître! » Et il jette à ses pieds parce qu'il tient à avoir une réponse. C'est un jeune homme qui est performant, spirituellement impliqué, riche, habitué d'obtenir ce qu'il désire, et ça semble être un jeune homme plutôt bien, parce qu'il semble vraiment avoir une crainte de Dieu. Non seulement par la réponse qu'il va faire à Jésus, mais déjà par son attitude. Déjà, il y a une attitude d'humilité qui est là. Il veut entendre la réponse de Jésus. Malgré toutes ses richesses, il ne peut sécuriser, il ne peut s'assurer la vie éternelle. Et donc, il pose la plus importante des questions. Si vous pouvez partir ce matin de cette assemblée en ayant la réponse à cette question, vous aurez la réponse à la plus importante des questions de votre vie. Quelles que soient vos richesses, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition, si vous obtenez la réponse à cette question, vous avez la réponse à la plus importante des questions. Maintenant, je suis bien conscient que pour la majorité d'entre nous, vous avez déjà la réponse. Parce que vous possédez déjà Christ, vous êtes déjà chrétien. Je ne veux pas prendre pour acquis que c'est le cas pour chacun d'entre nous. Je ne veux pas prendre ça pour acquis. Moi, j'ai commencé à fréquenter l'église dont je suis pasteur à l'âge de 6-7 ans. Et pourtant, je me suis converti à 19 ans. Tu vois, ce n'est pas parce que j'allais à l'église que j'étais chrétien. Ça n'avait absolument rien à voir, parce que toute la sagesse du monde, tant qu'elle ne vient pas se déposer dans ton cœur, ne t'apporte rien. Et donc, je ne veux pas prendre pour acquis que nécessairement vous êtes chrétien parce que vous êtes à l'Église, ou pire encore, que vous êtes chrétien parce que vous possédez la connaissance de la vérité. Tant que ça ne s'est pas déposé dans votre cœur, ça ne vaut rien, absolument rien. Et donc, peut-être que tu as besoin de partir de cette assemblée ce matin avec cette réponse, non plus seulement comme une information extérieure à toi, mais comme une vérité personnelle. Peut-être que ce matin, tu prendras une meilleure décision que ce jeune homme-là. Peut-être. Donc, il pose une excellente question. Il dit, « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Après tout, c'est la seule question qui compte. Toutes les autres questions qu'on pose dans la vie sont temporaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce que je vais manger demain? Quel sera mon travail dans la vie? Est-ce que je pourrais me marier? Est-ce que j'aurai une épouse? C'est quand même bien, ça peut durer longtemps, mon épouse et moi. On va célébrer quoi? 31, 32? 32, merci chérie. On va célébrer 32 ans, je suis pourri avec les dates. 32 ans, c'est quand même bien. C'est presque une éternité pour certains mariages. Pour nous, on dirait qu'on s'est marié hier. Mais c'est très temporaire encore. Et donc, toute autre question qu'on peut se poser sur cette terre, c'est quoi la réponse pour mon examen de mathématiques? Comment est-ce que je pourrais me faire des amis? Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Où est-ce que j'aimerais aller en vacances cet été? Comment je vais assurer ma retraite? Toutes les questions qu'on se pose sur la terre sont infiniment secondaires parce qu'elles sont temporaires. La réponse aura une portée temporaire. La seule qui est éternelle, c'est celle-là. Et donc, ce jeune homme riche pose la seule question vraiment importante. Comment fait-on pour hériter la vie éternelle? Et pourquoi c'est la seule question qui est importante? Bien, c'est parce qu'elle est éternelle, cette vie-là. Alors que la vie ici est infiniment temporaire. J'ai 53 ans. Il me semble qu'hier, j'avais 23 ans. Je ne sais pas où sont passées les 30 dernières années. Je n'ai pas la moindre idée. Et donc, je sais maintenant que si Dieu m'accorde encore 20 ans, ça va passer encore plus vite. Ça va passer encore plus vite. Maintenant, Jésus lui fait une réponse. Jésus lui répond de manière surprenante, parce qu'on est dans une église évangélique ici, c'est ça? On est dans une église qui prêche l'évangile. Si on est dans une église qui prêche l'évangile, on n'est pas tellement axé sur les mérites personnels. Tu vois? « Je vous salue Marie, va allumer un cierge, je ne sais pas, fais ton pèlerinage. » Non, on n'est pas tellement axé là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour hériter la vie éternelle? Vous avez tous la réponse, on apprend ça. On croit en Jésus. Non? On croit en Jésus. Mais Jésus ne semble pas lui donner cette réponse. Jésus ne semble pas lui dire « crois en moi ». Donne une réponse surprenante. Jésus ne lui dit pas « crois en moi ». Jésus lui dit au verset 18 « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Alors, si vous connaissez les 10 commandements, vous remarquerez qu'on est dans la deuxième partie des commandements. Il a omis les commandements qui sont concentrés sur la personne de Dieu lui-même, d'aimer Dieu, de ne pas se faire d'idole. Et j'ai l'impression, comme plusieurs commentateurs, que Jésus se tourne vers des commandements qui sont plus concrets, qui nous permettent de voir si vraiment, est-ce que j'ai un bon juif devant moi ou non? Est-ce que j'ai un bon croyant? Est-ce que j'ai un bon fils d'Abraham devant moi? Donc, il va vers des questions plus concrètes avec lesquelles il peut s'examiner sérieusement. Jésus se concentre sur des commandements qui sont concrets et observables. Et pourtant, sa question, c'était comment est-ce que je peux m'assurer d'avoir la vie éternelle? Jésus aurait pu couper court. Je te vois, jeune homme. Je vois bien que tu es religieux, je vois bien que tu vas à l'église le dimanche matin ou à la synagogue le samedi. Je vois que tu cherches à obéir à la loi. Jésus aurait pu couper court et lui dire, tu vois, tu es imparfait. Moi, je le sais, toi, tu le sais dans le fond. Peut-être que tu ne l'admettras pas aujourd'hui. Laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Avec toutes tes performances, tous tes efforts, tu ne peux t'acquérir le ciel. Tu n'as qu'à croire en moi. Bientôt, je vais mourir sur la croix. Je vais ressusciter d'entre les morts. Et si tu t'appropries ce geste-là, paf, tu viens me rejoindre au ciel pour l'éternité. Il me semble que Jésus aurait pu être plus efficace. S'il l'avait fait à l'américaine, en tout cas, je crois qu'il aurait coupé court. Mais ce n'est pas ce que Jésus fait, parce que Jésus veut confronter son cœur. Jésus veut le confronter à lui-même. Parce que toute la connaissance du monde ne suffit pas à nous amener à Dieu. Il nous faut entrer en nous-mêmes et prendre conscience où je suis. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis face à Dieu? Suis-je intègre? Ma vie est-elle remplie de mensonges? Suis-je vraiment chrétien? J'ai la façade, j'ai l'image, mais le Seigneur connaît mon cœur. Et donc, Christ va toujours vers le cœur. C'est ce qu'il vient juste de nous dire, soyez comme de petits enfants, parce que leur cœur est vraiment disponible. Soyez aussi simples, remplis de foi, naïfs comme un petit enfant, parce que leur cœur est disponible. Christ a besoin toujours, pour que nous grandissions pour le connaître, que nous puissions entrer en nous-mêmes, qu'on puisse s'examiner nous-mêmes. Et Jésus était absolument le meilleur enseignant pour nous amener à se confronter. On ne connaît pas toute la suite de l'histoire avec cet homme-là. Moi, je veux croire qu'il s'est converti, que son histoire ne s'est pas arrêtée là. Le Saint-Esprit continue à l'accompagner. Jésus sait où il s'en va. Pour nous, l'histoire s'arrête ici avec lui. Jésus se concentre sur les commandements qui viennent exposer sa vie. C'est intéressant la réponse que Jésus lui donne. On lit au verset 21, « Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Ça m'a frappé particulièrement cette fois-ci en étudiant le passage. Il y a un ordre. Hein? Jésus dit, « Va, il te manque une seule chose. C'est bien, tu observes la loi, c'est magnifique. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Puis, viens, suis-moi. Et donc, la condition que Jésus présente pour qu'il ait un trésor dans le ciel, c'est de vendre tout ce qu'il possède et de le donner aux pauvres. ensuite viens suis-moi. J'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi est-ce que Jésus prend le temps de séparer les deux? Il aurait pu le dire après, viens suis-moi, puis tu auras la vie éternelle. Parce qu'après tout, s'il ne suit pas Jésus, au moins dans son camp, comment peut-il avoir la vie éternelle? Est-ce qu'il suffit de devenir pauvre? On fait vœu de pauvreté ce matin, tous ensemble. Pas besoin de s'occuper de Jésus. On a un trésor dans le ciel. On a fait vœu de pauvreté. Mais non, évidemment pas. C'est pas ça l'Évangile. Il faut croire en Jésus. Encore une fois, on dirait que Jésus cherche à l'induire en erreur. Mais en fait, non. Jésus est en train de le confronter au plus grand obstacle qui demeurait dans son cœur, dans sa vie, pour suivre Jésus-Christ. Voyez-vous, Jésus, contrairement à nous, n'est absolument pas impressionné par nos richesses. En fait, Dieu n'a pas besoin de nos richesses. Pas du tout. Ça ne l'impressionne pas. Si Jésus doit choisir, Jésus préfère avoir un pauvre qui le suit qu'un riche qui n'est pas en mesure de le suivre. Une chose qui est claire, si vous venez à l'Église en cherchant, vous posant des questions, ou si vous écoutez cette prédication sur Internet et vous vous dites, après tout, les chrétiens n'en veulent qu'à notre argent. Bon, peut-être qu'il y a des pasteurs qui sont faux, c'est vrai. Jésus n'en a pas pour ton argent. Je veux dire, c'était le meilleur disciple potentiel. Pensez-y un instant. Et si je veux être honnête avec vous, je suis pasteur. J'ai un jeune homme riche qui arrive à l'église qui dit, « Pasteur, qu'est-ce que je dois faire pour devenir chrétien? » Je dois être honnête avec vous, je ne pense pas que mon réflexe serait de lui dire, « Combien tu vaux? Vends tout, débarrasse-toi de tout, présente-toi dimanche prochain à l'église. » Imaginez que ce que vous retenez du message ce matin, « Écoute, Franck, ce que Yannick nous a enseigné, c'est de vendre tous nos biens. » De donner tous nos biens et on se retrouve dimanche prochain. J'imaginais la scène, vous vous présentez ici tout le monde dimanche prochain, sans le sou, complètement. Vous dites, Franck, c'est quoi le programme? Où est-ce qu'on s'en va? L'église est cassée. Je ne sais pas pour Franck, c'est vraiment un homme probablement plus spirituel que moi. Pour ma part, il m'est arrivé de me dire, ah si Elon Musk pouvait se convertir. Je crois que j'irai le solliciter pour quelques missions. Je pense qu'il pourrait nous aider. Non, mais si on veut être honnête, et là je vais être honnête avec vous, Franck dit que je suis un gars transparent, c'est très difficile pour un pasteur de voir quelqu'un qui est en moyen, ou peut-être qui n'a pas d'argent, mais qui est très talentueux, et de ne pas se dire, eh, si celui-là pouvait se convertir, je pense qu'on pourrait marquer quelques buts ensemble. Mais vous voyez, Jésus ne pense pas comme ça. Jésus ne voit pas les choses comme ça. On a un jeune homme qui craint Dieu, qui cherche comment s'assurer qu'il a la vie éternelle et qui est riche. Je veux dire, moi, je le prends à ma suite, puis on voyage ensemble. Au lieu de dormir avec la tête sur un caillou, on s'arrêtera dans une auberge ici, dans une auberge là-bas, on découvrira le pays un peu, la cuisine du pays. Je veux dire, il y a la bourse, c'est mon disciple. Non, Jésus lui dit, débarrasse-toi de tout ce que tu possèdes, vends tout, élimine tout. Et là déjà, je sais, peut-être comme moi, les premières fois que vous avez lu ce passage, je vous ai dit, mince, devenir disciple de Jésus, ça veut dire qu'il faut tout perdre. J'espère que ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Et là, on se promène dans la Bible, on cherche ailleurs dans les Écritures, on se dit, oui, mais est-ce qu'il y a des disciples qui ont gardé un peu d'argent quand même? Heureusement. On trouve des mécènes qui prennent soin de Jésus, comme Marthe, Marie, Lazare, hein, qui avaient de l'argent, ils avaient une maison, ils l'accueillaient, puis on se dit, OK, il y a de la place pour moi dans le royaume de Dieu aussi, je pourrais en garder un peu. Et donc, c'est une question que j'ai pour vous. Si vous devez choisir entre, parce que vous voyez, il y avait vraiment de tout, hein, chez les disciples de Jésus. Il y avait des gens très riches qui supportaient, qui aidaient, qui avaient des maisons. On le voit lorsqu'on étudie toute la suite du Nouveau Testament. En fait, Paul va dire, vous qui êtes riches, vous êtes riches pour aider ceux qui ont moins d'argent. C'est tout. On en parlera plus la semaine prochaine de ça. C'est la suite dans Marc. Mais donc, il y avait des disciples riches, il y avait des disciples pauvres. Et il y avait des disciples à qui Jésus dit, deviens pauvre si tu veux me suivre. Et donc, je ne sais pas si vous avez le choix, quelle position vous décidez de prendre. Vous décidez d'être cet ami de Jésus qui garde sa maison, ses installations, puis qui dit, Jésus, quand tu passes dans le coin, t'arrêtes chez moi, j'ai toujours une chambre pour toi, je te fais un petit repas, ou tu es le disciple qui vend tout et qui décide de le suivre. Parce qu'il faut quand même considérer l'offre qui lui est faite. L'offre d'une vie, c'est une offre extraordinaire qui lui est faite. Pensez-y. Jésus, qui fait des miracles tous les jours, bon, après tout, les disciples ne meurent pas de faim, on manque de pain, on multiplie le pain, on va s'en sortir, on va y arriver. Peut-être que vous me verrez marcher sur les eaux, je ressusciterai des morts, on part en tournée ensemble. Jésus lui offre l'offre du siècle. Tu peux suivre Dieu le Fils qui fait des miracles partout où il passe. Qu'est-ce que vous auriez décidé de répondre à Jésus? Vous dites, écoute, moi je t'admire, je te respecte. Si j'ai bien compris, je n'ai qu'à croire en toi. Donc je garde ma maison. Quand tu passes dans le coin, j'ai une chambre pour toi. Marthe, Marie, Lazare. C'est biblique. Il n'y a pas de souci. Ou est-ce que vous décidez de dire, je peux être avec Jésus tous les jours. Je vais le suivre, je vais marcher à sa suite. Qu'est-ce que vous auriez fait? Honnêtement, je me suis posé la question. Est-ce que j'aurais eu l'intelligence de dire, attends, je saute dans le train lorsqu'il passe, là. Je peux suivre Jésus tous les jours. C'est fou. Mais il y avait un prix à payer. Il fallait vendre toutes tes possessions, les donner aux pauvres. Tu ne les gardes pas dans la bourse, tu les donnes aux pauvres. Alors, je le répète, si vous avez l'impression que le christianisme est là pour votre argent, c'est que le christianisme qui vous a été présenté est un faux évangile. Ou vous avez mal compris le message. Jésus n'est pas intéressé à votre argent. Pas du tout. Ça n'impressionne pas. Votre argent n'est pas un plus-value pour le royaume de Dieu. Ça n'enrichit pas le club de Jésus. D'aucune manière. C'est pas que Dieu s'en servira pas. Mais ce n'est pas un plus. Et c'est tellement difficile pour notre cœur de sincèrement penser comme ça. Sincèrement accueillir qui que ce soit qui se présente à l'Église. Je ne sais pas si vous dites le mot « guenilles », vous dites ça, des guenilles? Non. Des vêtements complètement défaits, détruits, en haillons. Donc vous avez quelqu'un qui se présente ici qui semble plutôt être peut-être un itinérant, un sans-abri, sans domicile. Et vous avez quelqu'un qui arrive ici, stationne sa Lamborghini en avant, puis dit « comment est-ce que je fais pour aller au ciel? » C'est difficile pour le cœur humain d'être intègre. Mais je vous le dis, si vous avez des préjugés envers le christianisme, en ayant l'impression que ce truc-là, le truc de Dieu, là, c'est une arnaque, dans le fond, pour mettre la main sur l'argent des gens. Oui, il y a de faux docteurs, des loups, qui enseignent des hérésies. Mais ce n'est pas Christ. Parce que Christ n'en a rien à faire de votre argent. Il n'en a pas besoin. Et en fait, on va aller plus loin. Ce que Jésus est en train de lui dire, c'est que si l'argent définit ta valeur, si l'argent fait obstacle à ce que tu me suives, maintenant l'argent est un mauvais maître. Et donc, Jésus prend simplement le temps de vraiment mettre le doigt sur le bobo. Vous dites ça, mettre le doigt sur le bobo? Vraiment, il va et il pointe là où ça fait mal. Les richesses accumulées de cet homme étaient l'obstacle pour qu'ils connaissent Christ. Pour certains, c'est leur richesse. Pour d'autres, c'est le succès. Pour d'autres, c'est le désir d'amour. Je veux tellement rencontrer l'amour de ma vie que je ne considérerai pas Dieu et ce que Dieu me prescrit quant à l'amour. Tu vois? Donc, ça peut être toutes sortes d'obstacles. Mais clairement, dans les Écritures, l'argent est facilement un obstacle. Alors, laissez-moi vous offenser un peu, peut-être. Je viens d'Amérique du Nord, on fait ça chez nous. On est un peu, on dit baveux. Tout le monde ici est riche. Lorsque nos enfants étaient jeunes, on commençait dans le ministère et l'Église n'était pas en mesure de nous payer un salaire honnêtement vraiment décent. Et donc je me souviens, les quelques premières années de ministère, j'ai pris plusieurs kilos. parce qu'on mangeait essentiellement des pâtes blanches, c'était pas tellement cher. Mais lorsqu'on a eu les enfants étaient petits, on était assis autour de la table, on disait régulièrement aux enfants, on disait, vous savez qu'on est très riches. Puis on disait, regardez ce qu'il y a autour de la table. Salomon ne pouvait pas avoir tout ça. Il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas d'exportation. Bien sûr, il y en avait, mais considérez sérieusement, objectivement, la qualité de vie qu'on a. Les soins médicaux, tout ce qui est disponible. Et donc, très tôt, on enseignait à nos enfants, réalisez que nous sommes vraiment riches. Alors, je sais que dans cette église, comme dans toutes les églises, il y en a qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts, à boucler le mois. Et donc, vous dites, non, mais Yannick, tu ne connais pas ma condition, je ne suis pas riche. Je suis d'accord. Mais sors un peu de Genève, va te promener dans le monde, viens avec moi en Haïti. Vois-tu, en Haïti, tous les Haïtiens avec qui on parlait, tous les jeunes hommes haïtiens voulaient marier toutes les Québécoises qui étaient avec nous en mission. Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup à quitter s'ils pouvaient marier une Québécoise puis rentrer au Canada. Ils ne laissaient rien derrière. Des relations, des amis, bien sûr, mais aucune richesse. J'étais là-bas, puis une des missionnaires qui était avec nous, une épouse de pasteur qui s'appelait Ève. Donc, les dames n'avaient pas le droit de sortir pour aller faire de l'évangélisation seule, parce que c'était compliqué. Et donc, je présentais toujours Ève en disant, « Voici Ève, épouse de pasteur. » Elle se faisait demander en mariage constamment. Parce qu'ils voulaient quitter le pays. Ils sont pauvres. Mais si tu avais un toit la nuit dernière pour dormir, si tu as une idée de ce que tu vas manger dans quelques heures, si tu peux te pointer aux urgences pour avoir de l'aide médicale s'il y a un inconfort, tu es riche. Très riche. En fait, tu es suffisamment riche pour que tes richesses soient un obstacle dans ta vie spirituelle. Tu es suffisamment riche pour que tes richesses soient un obstacle à véritablement suivre Jésus. Et c'est assez simple à déterminer. Si Jésus se présentait ici maintenant et qu'il disait, tu veux être mon disciple? Vends tout ce que tu possèdes. Je suis en train de découvrir la maison de Franck. J'aime, la maison est super bien, mais c'est ta montagne derrière. J'aimerais me payer une montagne comme la tienne. Le paysage, c'est incroyable. Jésus pointe ici et vous dit, tu vends tout, tu donnes tout aux pauvres. Non, non, on n'aura pas besoin de mission, tu n'as pas besoin d'amener d'argent. Inquiète-toi pas, je multiplierai quelques pains. Ce ne sera pas un comté nécessairement qu'on mangera pour mettre sur le pain, mais bon, il y aura du pain, quelques poissons. Et si vous devez calculer, si vous devez réfléchir, vous êtes riche. C'est pas un péché, hein? C'est pas un péché, là. Il y avait plein de disciples de Jésus qui étaient en moyen et qui contribuaient à l'œuvre de Dieu. Mais clairement, ce passage-là nous enseigne que nos richesses sont facilement un obstacle à notre vie chrétienne. Parce que ce jeune homme-là, qui semblait vraiment quelqu'un de bien, Franck l'a bien lu tout à l'heure, Jésus l'aima. Ça semblait être quelqu'un de bien. Quelqu'un qui cherchait de vraies réponses à la question la plus importante. Et pourtant, lorsque Jésus lui donne la réponse, « Suis-moi ». Suis-moi. Le fait qu'il lui demande de liquider tous ses biens, de donner l'argent aux pauvres, l'amène à quitter Jésus. C'est tout un obstacle. Quand tu dis qu'il y a quelque chose qui est dans ton cœur, qui t'empêcherait de suivre la personne la plus riche de l'univers, qui t'aime le plus dans tout l'univers et qui t'assure la vie éternelle, qui t'assure de passer de cette vie temporaire, éphémère, à l'éternité, et tu dis non, je préfère garder ça que de te suivre toi. C'est tout un obstacle. Et donc cet obstacle-là pour le jeune homme riche, bien c'était mammon, c'était l'argent, littéralement. Dans Matthieu 6, 24, on lit « Nul ne peut servir deux maîtres ». car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Son argent était un dieu dans sa vie, littéralement. Et lorsque Jésus lui a dit, « Mais écoute, c'est simple, tu mets de côté ton dieu et tu me suis. » C'est pour ça que je dis, ça peut être absolument n'importe quoi, votre dieu. Ce n'est pas nécessairement l'argent. Ça peut être l'amour, ça peut être des projets de carrière, ça peut être de l'amertume qui est dans votre cœur. Vous avez été offensé, vous avez été blessé par une personne et vous n'êtes pas prêt à laisser aller ça. C'est un pardon qu'on refuse d'accorder parce qu'on réclame justice. Franck et moi, on parlait d'un ami commun qui, hier soir, on parlait de ça, qui réclame justice. Il réclame tant et si bien justice qu'il ne marchera pas avec Dieu, plutôt que de passer par-dessus les fautes qu'on a pu faire à son égard. Voyez-vous, les idoles peuvent prendre toutes sortes de formes dans notre cœur, toutes sortes de formes différentes. Ça peut être simplement dire, « Seigneur, je te suivrai, mais plutôt que d'aller enterrer mes morts, laisse-moi vivre ma jeunesse. Laisse-moi vivre quelques années, ensuite je te suivrai, Seigneur. Laisse-moi aller adorer le Dieu de ma jeunesse, la liberté d'une vie dans le monde. 5 ans, Seigneur, 5 ans. 5 ans, puis je te donne ma vie entière. Mais je vais aller faire la galère pendant 5 ans. » J'ai essayé ça. C'est une fin amère. Et il n'y a aucun souvenir que j'ai gardé en arrière qui me dit que ça valait le coup de marcher ces années-là sans Dieu. Donc, je connaissais l'Évangile à partir de 7-8 ans. Je me convertis à 19 ans, je quitte l'Église vers 12 ans, quand mes parents divorcent. De 12 à 19 ans, il n'y a pas de choses qui se sont passées là, loin de Dieu, où je me dis, ça valait le coup de ne pas suivre Dieu. Il n'y en a pas. Mais j'avais une idole dans ma vie, c'était cette liberté d'aller vivre le péché. Et donc, je voulais me garder un cœur non consacré. C'est pas que je ne le connaissais pas. Hein? Chaque fois que je faisais une grosse bêtise, j'écrivais une prière. Je me souviens très bien, mon frère et moi, on avait entré de la boisson on était dans un collège privé, puis bon, on avait clandestinement entré de la boisson pour informer un peu tout le monde, vous passez aux toilettes, c'est caché à cet endroit-là, hop, 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 on va passer une belle soirée. Il y a un fin finot qui nous a dénoncé, évidemment. Alors, le professeur, M. Campo, aucun manque de respect, était énorme, littéralement énorme, et il conduisait une mini. Et donc, il nous embarque dans sa mini, je me souviens, et mon frère habitait chez ma mère, moi j'habitais chez mon père, puis M. Campo nous dit, « Les gars, je vous appelle lundi pour vous dire si vous êtes encore au collège. » Alors, il me dépose devant chez mon père, j'habitais là, pour réaliser que je n'avais pas les clés, et mon père, qui n'était pas chrétien, couche chez sa blonde. Et donc, je dois attendre à l'entrée de l'immeuble que mon père rentre le lendemain pour lui dire ce que je fais là. Et à ce jour, j'ai un vieux paquet de cigarettes Camels dans lequel j'ai écrit ma prière. J'ai fait un deal avec Jésus. Sors-moi de là, je te donne ma vie. Donc, j'ai gardé la prière et je n'ai jamais obéi à cette prière-là. Je n'ai pas honoré. Parce que je voulais faire la galère. Et Dieu, dans sa grâce, m'a épuisé de vivre dans ma folie. Il m'a conduit à un endroit où, dans la période des fêtes, alors que je recevais des cadeaux, tout ça, les gens sortent de la pièce. J'ai simplement dit, « OK, Seigneur, on s'arrête ici. C'est toi qui prends le volant de ma vie. » Ces années-là sont perdues. Et des fois, j'entends des chrétiens qui disent, « Non, mais j'ai appris des choses. Maintenant, je comprends tout ça. » Quelle triste perspective. Tu as gardé quelques bons souvenirs. Imagine si tu avais servi le Seigneur pendant ces années-là. Il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner. Donc, je ne sais pas s'il y a des obstacles dans ta vie qui deviennent des idoles pour toi. Pour ce jeune homme-là, c'était son argent. Puis on lit au verset 23, Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc avant de terminer avec le dernier point, je veux simplement vous dire, d'une part, les gens qui sont autour de vous ici à Genève ont de bien plus grands défis pour se tourner vers Christ que mes amis haïtiens dans le sud d'Haïti. Et je le sais comme un fait parce que lorsque j'allais en Haïti, j'entrais dans la mission de Jeff Lorrain. Quelques personnes à l'IBG connaissaient Jeff Lorrain, il est décédé il y a quelques temps au Québec. Jeff était un homme de foi et Jeff me disait, « Quand je vais en Haïti, les chrétiens me demandent de prier. Je fais les mêmes prières en Haïti que je fais au Québec et elles sont exaucées en Haïti. » Les gens viennent me demander de prier pour des guérisons. Je suis le même type, mais en Haïti, elles sont exaucées. Elles ne le sont pas au Québec. Parce que ces gens-là savent qu'ils ont besoin de Dieu. Parce que Dieu leur accorde une grâce qui est très lourde à porter, celle de la pauvreté. Et les gens qui sont ici à Genève sont aveuglés, ils pensent qu'ils ont tout. Ils pensent qu'ils ont tout. Alors je vous parle premièrement des gens autour de vous dans cette ville, mais je vous parle de vous aussi, parce que je maintiens, au risque de vous offenser, que vous êtes riches, que nous sommes tous riches. Parce qu'on est beaucoup plus riches que la majorité des gens dans l'histoire de l'humanité et actuellement vivant sur Terre. Nous sommes parmi cette petite minorité de gens. Quel que soit ton niveau de richesse ici, même si tu as de la difficulté à boucler les fins de mois. Et voilà le troisième point, je vais terminer avec ça. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Celui qui a vaincu la mort peut vaincre tes idoles. J'ai décidé de dépeindre cette richesse comme une idole. Celui qui a vaincu la mort peut vaincre tes idoles. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 24-25, les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » 26-27, les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé? » Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Avant de me tourner vers votre champ missionnaire, qui est Genève, laissez-moi simplement appliquer ça à vos idoles dans vos vies. Cette semaine, j'ai été confondu par la fourberie de mon cœur, parce qu'il y a des émotions très négatives qui sont montées en moi, et je vous épargne le contexte. Mais ces émotions-là me disaient combien je n'étais pas spirituel à ce moment-là. Et ça m'a attristé. Ça m'a tellement attristé. Vous savez, un des grands privilèges d'enseigner la parole de Dieu, c'est que nous recevons beaucoup d'encouragement. Beaucoup de critiques, ça vient avec. Mais beaucoup d'encouragement. Vraiment beaucoup de respect. Et lorsqu'on va enseigner comme ça à la conférence Évangile 21, les gens sont tellement reconnaissants, tellement encourageant, et de voir mon cœur qui était corrompu dans ce contexte-là, j'étais humilié, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu peux faire pour changer ce cœur de pécheur que j'ai? Christ peut vaincre tes idoles dans ta vie. Mais pour qu'il le fasse, il va falloir que tu sois confronté comme le jeune homme riche. Il faut que tu ouvres les yeux et que tu dises, mince, si je devais choisir de suivre Jésus aujourd'hui, ceci y ferait obstacle. Je veux ma liberté, je veux garder mes biens, je veux cette promotion au travail, peu importe. Toutes des choses qui, ensemble, peuvent être bonnes, tant qu'elles ne t'empêchent pas de suivre Jésus. Et Christ peut te libérer de ces idoles-là. Jésus a donné la réponse à ce jeune homme qui est venu vers lui. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Ben, Jésus lui a dit, « Crois en moi. » Il a dit en d'autres termes. Il lui a dit, « Regardons premièrement si tu as la crainte de Dieu. Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Oui, j'obéis à la parole de Dieu. Excellent. Voyons s'il reste quelques idoles dans ton cœur. Il y a cette idole qui t'empêche de me suivre. Mets-la de côté, suis-moi, crois en moi. Est-ce que tu es prêt à examiner ton cœur pour voir s'il y a des idoles dans ton cœur qui t'empêchent de suivre dans la plénitude de l'Esprit, rempli de l'Esprit Saint, suivre Christ? Et il y a ça qui est là. Mets-le de côté, donne-le à Christ. L'image qui me venait à l'esprit, alors que je pensais à Genève, je méditais sur ce passage, je priais pour vous, c'est ceci. J'ai écrit « Jésus peut sauver Ninive ». Jésus peut sauver Ninive. Je fais référence au prophète Jonas dans l'Ancien Testament. Et ce prophète qui était juif était envoyé, si vous n'êtes pas familier, vers les Ninivites qui étaient absolument... ne connaissaient pas Dieu, ne vivaient pas une vie selon Dieu, ils vivaient une vie de dérèglement complet. Et Jonas ne les appréciait pas particulièrement. Et Dieu lui dit, tu vas aller vers eux pour leur dire que je m'en viens les frapper. Jonas 1, 2, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3, et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffa et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller vers les passagers, avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Maintenant, dans Jonas 3.5, donc je vous épargne l'histoire de Jonas, à la fin du livre de Jonas, Jonas 3.5, les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Ce qui amenait Jonas à ne pas vouloir aller vers les Ninivites, c'est que Jonas savait très bien que Dieu était capable de les pousser à la repentance. Jonas le déclare et dit, je sais, c'est pour ça que je ne voulais pas aller leur annoncer ta grâce, ton jugement. Parce que tu es un Dieu bon. S'ils se repentent, tu vas leur pardonner. Frères et sœurs, vous êtes riches, parce qu'on est tous riches, mais vous êtes surtout riches parce que vous connaissez Jésus-Christ. Et vous vivez au milieu d'une population qui est potentiellement parmi les plus pauvres du monde, spirituellement. Parce que cette population s'est amassée des remparts, des murailles, des forteresses entre Dieu et elle. Autrement, on est à Genève, c'est la ville de Calvin. On prêcherait l'Évangile. Je veux dire, ça serait glorieux, ça serait extraordinaire, on annoncerait l'Évangile. Et pourtant, qu'est-ce que Genève connaît de Jean Calvin? Qu'est-ce qui reste de sa théologie? Il reste vous. Il reste vous. Qui êtes les plus riches des gens de Genève, parce que vous possédez Christ. Et Dieu veut se servir de vous si vous suivez Jésus. Si vous dites, je veux marcher dans la plénitude de l'Esprit, alors Seigneur, montre-moi si mes biens matériels, des aspirations, prennent une place quelconque dans ma vie. Et qu'est-ce qu'on fait pour le tester? Je vais vous donner un exemple vraiment banal. J'aime énormément le café. Quelques fois par année, je fais un jeûne de café. Je me prive de café un mois, deux mois. Je fais ça avec le vin. J'aime bien le vin aussi. Bientôt, il faudra que je le fasse peut-être. Est-ce que j'ai le droit de dire ça? Avec le cigare. Parce que je commence à aimer un peu le cigare. Mais je fais un jeûne. Je fais un jeûne pour être certain que Dieu est plus important que moi, pour moi, que toutes ces choses-là. Et donc, une des manières de savoir qu'on n'a pas comme idole dans notre vie nos richesses, c'est de mesurer notre générosité. C'est de voir ce qu'on est prêt à faire avec ces richesses-là. Alors déjà, de donner à l'Église, mais d'être sensible aux situations que Dieu place devant nous, où on peut aider. Si vous identifiez une autre idole dans votre vie, de la prendre et dire, « Seigneur, je suis prêt à la mettre sur l'autel. Je suis prêt à y renoncer parce que je veux te suivre, Jésus. » Que Dieu vous bénisse cette semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si Dieu le veut, on se revoit la semaine prochaine. Et vous êtes habitué un peu à mon dialecte, donc vous pourrez comprendre davantage la semaine prochaine. On va prier, je vais laisser la parole à Franck. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence avec nos fardeaux. Et j'espère, Seigneur, que tu as mis en lumière quelques fardeaux sur nos cœurs, parce que nous avons tous des combats, Seigneur. Nous avons tous de ces choses qui prennent, à certains moments, trop de place dans notre cœur. Peut-être quelqu'un ici ce matin se dit chrétien, mais au fond de son cœur sait très bien qu'il n'est pas en train de te suivre, Jésus. Je demande, Seigneur, par la puissance de ton esprit, de venir exposer son cœur, que ce message puisse continuer à travailler son âme cette semaine, qu'il revienne à ce passage et que tu le conduises à cet endroit glorieux où nous cédons tout à tes pieds pour te connaître, Jésus, pour te saisir. Et Seigneur, certainement quelques frères et sœurs ici ont perdu la joie de leur salut parce que les biens matériels, la liberté, le temps, les aspirations, les ambitions prennent trop de place. Ou quelques conflits, quelques amertumes, quelques désirs prennent la place qui te revient dans leur cœur. Accorde-leur la joie, Seigneur, la joie de renoncer, de mettre de côté pour pouvoir te suivre en toute liberté. Et c'est en Jésus-Christ que nous te le demandons.